France Culture. Question du soir, Quentin l'a fait.
La chute de Bachar al-Assad le 8 décembre dernier a fait naître chez de nombreux Syriens et Syriennes l'espoir d'un retour dans leur pays d'origine. Ils sont actuellement 6,2 millions à s'être réfugiés en dehors de la Syrie, notamment en Turquie, au Liban, en Allemagne. Après 54 années de dictature, la perspective d'une Syrie nouvelle émerge et de nombreux exilés désirent participer activement à cette reconstruction malgré les ancrages qu'ils ont créés au sein de leur pays d'accueil. Dans une Syrie dont la situation économique, politique, sociale est incertaine. Comment les Syriens et les Syriennes envisagent-ils un retour ? Pour en parler, Franck Mermier ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes anthropologue, directeur de recherche au CNRS. Vous êtes membre de l'IRIS. Bienvenue ce soir à Question du Soir.
Dans les facteurs qui rentrent en compte, c'est la participation à un nouveau projet, c'est un nouveau pays qui va se développer. Enfin, ça, c'est sûr, à certains, dans le futur, il y aura un développement d'un nouveau pays. Donc, le fait d'être partenaire, le fait d'être actif, de participer à cette construction, c'est une des choses qui peut pousser à rentrer au plus vite.
J'ai encore la famille là-bas, donc ça me motive encore plus d'aller là-bas. On a aussi des enfants, ils ont des amis, leur vie ici en France. Nous, on a grandi là-bas. Donc, pour nous, c'est les souvenirs, c'est l'enfance, c'est tout. Mais pour nos enfants, c'est le contraire.
Témoignage de deux réfugiés syriens vivant en France, témoignage recueilli par France 24. Le premier, Rome, qu'on a entendu, est ingénieur. La seconde personne est architecte en France aujourd'hui. Et je l'ai dit, hein, Franck Mermier, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, il y a actuellement 6,2 millions de Syriens réfugiés en dehors de leur pays. Qui sont-ils et où vivent-ils aujourd'hui ?
Alors la diaspora syrienne, si on peut l'appeler ainsi, est très hétérogène, puisqu'effectivement, il y a de nombreux, 3 millions à peu près, réfugiés syriens en Turquie, plus d'un million, peut-être un million, peut-être voire 2 millions au Liban, et il y a 1 million en Allemagne, et beaucoup moins dans les autres pays européens. C'est vraiment l'Allemagne qui a accueilli le plus de réfugiés, comme on le sait. Et cette population est très hétérogène au niveau social, notamment. Il y a beaucoup, par exemple, au Liban, de travailleurs qui sont employés soit dans les champs, soit dans les usines, etc., dans les petits métiers, et qui sont exploités également, puisque justement ils ont des problèmes vis-à-vis de leur séjour, donc ils sont souvent dans des conditions, dans des séjours illégaux, et puis en Turquie également, il y a énormément d'ouvriers syriens ou de personnes qui travaillaient dans des usines à Alep qui sont réfugiés en Turquie, et ceux-là travaillent aussi dans des entreprises turques, ce qui fait que souvent d'ailleurs les patrons turcs, si on peut dire, des entrepreneurs turcs, on voit d'un mauvais œil le retour aussi des Syriens, parce que c'est une main d'œuvre exploitée, et donc ils sont employés, et notamment il y a le travail des enfants également dans les usines de textiles en Turquie. Et puis, il y a une autre composante de la diaspora syrienne, ce sont les entrepreneurs. On a beaucoup d'entrepreneurs syriens aussi en Turquie qui ont réinstallé leur usine en Turquie. Et puis, on a donc une classe moyenne, et de la même façon que l'on a une classe, disons, ouvrière ou travailleuse, disons, de l'emploi secondaire, et qui fait que cette population est très hétérogène et que, effectivement, les attentes par rapport à leur pays d'origine sont aussi diverses. C'est-à-dire qu'on peut trouver aussi des différences entre ceux qui étaient véritablement des opposants, c'est-à-dire qui se sont opposés et qui ont payé le prix assez tôt, dès 2011-2012, qui ont été obligés de fuir, et puis les autres qui ne sont pas pour le régime de Bachar al-Assad, mais qui ont été forcés de se déplacer en raison de la guerre et des conditions de vie.
On va revenir sur cette distinction, hein, Franck Mermier, mais d'abord je voudrais vous faire préciser une chose. Quand on regarde les chiffres, ce qui est frappant en réalité, c'est que les trois quarts de ces réfugiés syriens vivent en réalité dans les pays limitrophes de la Syrie, dans les pays qui entourent justement ce pays. On a en France une vision relativement biaisée des choses justement.
totalement, puisque en fait, les Syriens qui sont actuellement réfugiés au Liban et en Turquie se sont déplacés en fonction de leur proximité géographique de ces deux pays. Il faut savoir que la Turquie entretient 900 kilomètres de frontière avec la Syrie et que le Liban, évidemment, limitrophe de la Syrie. Donc, c'était effectivement les pays de refuge naturels, si on peut dire, de ces pays. D'autant plus que en Turquie, le régime turc était plutôt favorable à la révolution syrienne, donc les a accueillis, pensant que finalement il y aura évidemment un retour probable du fait de la chute du régime, ce qui n'a pas été le cas tout de suite. Et puis au Liban, finalement, c'est un territoire d'accueil ou plutôt de refuge et de travail aussi des Syriens depuis très longtemps, depuis que les deux pays existent, si on peut dire. Et donc c'était tout à fait un déversoir naturel de ces populations. Il y a aussi la Jordanie, qui est également un pays qui est dans le sud de la Syrie et qui a aussi accueilli de nombreux Syriens.
Alors dans vos travaux, hein, et notamment dans une synthèse, une tribune que vous avez fait paraître dans le journal Le Monde, Franck Mermier, vous mettez en lumière un trait très particulier justement de ces réfugiés syriens et notamment de ces réfugiés syriens qui se sont engagés contre le régime d'Al-Assad, c'est le phénomène de la double identité. Beaucoup ont vécu dans l'ombre, masqués, en transformant leur nom, leur identité concrète, factuelle. Expliquez-nous pourquoi aux origines.
Alors, à l'origine, il y a effectivement, ce recours à la clandestinité, et notamment ce que j'ai appelé la clandestinité patronymique, c'est-à-dire trouver un pseudonyme, changer de nom, pour des raisons de sécurité, c'est-à-dire pour pas que les familles restées dans le pays soient inquiétées par le régime, qui, faut le savoir, était extrêmement féroce et pouvait, de manière indiscriminée, réprimer en fait l'ensemble d'une famille pour les opinions d'une seule personne. Donc il y avait cette obligation, si on peut dire sécuritaire, de vivre dans la clandestinité et donc de dissimuler son patronyme, notamment pour les journalistes, certains écrivains qui écrivaient dans les sites de l'opposition syrienne ou qui étaient considérés comme des sites de l'opposition syrienne, et même aussi pour des traducteurs qui n'ont pas osé aussi mettre leur nom sur les ouvrages. Par exemple, l'ouvrage de Michel Seurat, L'État de Barbarie, a été traduit en arabe, mais le traducteur n'avait pas mis son nom, par exemple. Ou d'autres avaient changé leur nom ou n'avaient pas mis leur nom. Et donc, il y avait tout un pan de la société syrienne qui vivait une double identité, une identité clandestine et qui était connue par les autres militants, les autres personnes de leur entourage militant, si on peut dire, politique, et puis leur famille qui finalement les connaissait sous un autre nom, évidemment leur nom véritable, et il fallait parfois justement utiliser deux numéros de téléphone, deux pages Facebook, etc. Donc avoir en fait des conduites extrêmement difficiles et gênantes par rapport à l'expression de sa propre personnalité, c'est-à-dire qu'il y avait aussi des conséquences psychologiques sur cette situation, sur cette condition en fait clandestine.
C'est l'une des questions qui est évoquée dans ce film exceptionnel intitulé Les Fantômes, un film de Jonathan Miller qui raconte l'histoire d'Hamid, un membre d'une organisation secrète qui traque les criminels de guerre syriens cachés en Europe, notamment en France et en Allemagne. On en écoute un extrait.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux plus.
Qu'est-ce que tu as fait?
Quand je ferme les yeux, je me vois le pousser sur le tramway.
C'est lui?
Je ne sais plus.
Tu ne peux pas arrêter là. C'est pas le moment. On n'aura pas demain.
Dis-moi ton nom. Ton vrai nom.
On ne se dit pas le nom. C'est la règle.
S'il te plaît, j'ai besoin de quelque chose de vrai.
Nina.
Tu as perdu qui, toi, là-bas, Nina?
Va dormir. Demain, je viens te voir.
C'est l'anniversaire de ma fille, demain.
j'ai besoin de quelque chose de vrai, dit Hamid, hein, qui demande à son interlocutrice son nom, juste son nom, pour se raccrocher sans doute à un îlot de réalité. C'est quelque chose qui a été vécu d'une façon large, comme cela, ce phénomène de manque d'ancrage par ces réfugiés syriens qui, encore une fois, se sont engagés contre le régime.
Oui, alors juste pour revenir sur le film, là, il s'agit en fait de tortionnaires aussi qui cachent leur nom, hein, leur vrai nom, et
tout
qui vivent sous des identités d'emprunt en Europe pour pas être reconnus par d'autres membres de la diaspora syrienne.
C'est pas le cas d'Amid qu'on a entendu, mais c'est le cas de certains personnages du film.
Et donc peut-être qu'on va en voir d'autres arriver effectivement en Europe qui faisaient partie en fait des loyalistes en fait de ceux qui étaient fidèles à l'ancien régime. Pour revenir à votre question, effectivement, il y avait cette question de vie parallèle en fait, de vie parallèle dans une espèce d'entre-soi qui était parfois extrêmement limité, justement par le fait qu'on vivait dans la clandestinité, mais aussi parce que justement cette vie tournée vers la Syrie, vers justement le changement politique en Syrie, faisait que, et puis aussi le fait que pour beaucoup de ceux qui sont arrivés en Europe, ils n'ont pas eu le temps aussi, ils ont été confrontés à des conditions de vie un peu difficiles, d'adaptation, etc., d'apprentissage d'une langue étrangère. Ce qui faisait qu'ils étaient aussi un peu en marge des sociétés d'accueil pour certains, pas pour tous évidemment, d'autres se sont intégrés beaucoup plus facilement, notamment pour ceux qui avaient des enfants et qui allaient à l'école, mais il reste que beaucoup finalement vivaient dans une espèce de vie parallèle et qui cultivaient cet entre-soi avec d'autres, surtout que leur combat était resté tourné vers la Syrie. Et aussi par le fait que d'une espèce de trait psychologique qui faisait que si on renonçait finalement à penser à la Syrie, à agir pour la Syrie, finalement on commençait à trahir sa propre cause et son propre pays en finalement bénéficiant de tous les avantages qui étaient pouvaient être disponibles dans la société d'accueil.
Comment cette sortie de l'anonymat progressive est-elle vécue depuis le 8 décembre dernier, soit depuis la chute du régime de Bachar al-Assad ?
Alors, il y a eu une immense joie déjà de retrouver cette personnalité première, si on peut dire. Il y a eu beaucoup de journalistes, d'auteurs, en fait, de personnes qui intervenaient dans ces journaux de l'opposition, dans ces revues, dans ces sites en ligne, qui ont déclaré leur véritable nom. Donc, il y a eu véritablement une espèce de coming out, si on peut dire, peut faire ce parallèle du pseudonyme, du patronyme, en fait, de la véritable identité. Et ça a été accompagné aussi de l'expression de la joie de retrouver cette identité. Et cette identité, retrouver le patronyme, le nom, en fait, était un prélude au retour. En fait, à l'anticipation, c'était un peu une anticipation du retour. Et un écrivain syrien, Fawaz Haddad, a écrit que justement retrouver Damas, puisqu'il était il pouvait pas aller à Damas durant ses 10 dernières années, retrouver Damas a été comme aussi retrouver sa personnalité. C'est-à-dire que le retour dans le pays aussi vient compléter en fait cette sortie de la clandestinité.
Vous avez dit, hein, Franck Mermier, à quel point cette diaspora syrienne, et c'est normal vu son nombre, est extrêmement hétérogène. Est-ce que les Syriens que vous avez pu rencontrer, celles et ceux avec lesquels vous avez pu discuter, souhaitent aujourd'hui rentrer rapidement en Syrie ? Est-ce qu'ils souhaitent simplement revoir la Syrie, ou est-ce qu'ils sont encore méfiants ? Est-ce qu'ils attendent peut-être des preuves d'amour aussi du régime actuel ?
Alors là aussi, les conditions sont extrêmement différentes selon les situations, évidemment. Il y a eu on parle de 58 000 départs jusqu'à aujourd'hui de la Turquie, ce qui n'est pas énorme par rapport au nombre de la population réfugiée en Syrie, enfin en tout cas qui installée en Syrie.
58 000 personnes.
En Turquie, pardon.
58 000 personnes qui vivaient alors en Turquie, qui sont rentrées en Syrie.
Qui sont rentrées en Syrie. On parle aussi de 50 000 aussi depuis le Liban, un peu plus. Mais aussi pourquoi ? C'est parce que il y a aussi des craintes pas seulement par rapport au régime, pas pour beaucoup, par exemple, ils ont vu d'un très bon œil finalement ce changement de régime. La plupart ont vu d'un très bon œil ce changement de régime, simplement en raison des conditions de vie en Syrie, où il manque 90% de la population vit sous le seuil de la pauvreté, où le 50% des écoles sont pas fonctionnelles, où il y a un manque d'électricité, même si ça commence à s'améliorer un petit peu, où finalement la livre syrienne, même si un peu elle reprend un peu des couleurs, fait que la vie est très chère, etc. Et donc, et puis surtout le système de santé qui est complètement défaillant. Donc les conditions de vie sont un frein justement à un retour. Bon, ça c'est une chose effectivement qui peut s'entendre tout à fait, hein, ce qui est normal. Mais il y a aussi un autre aspect qui est en fait lié à la protection subsidiaire accordée par les pays européens, c'est-à-dire que pour l'OFPRA, par exemple, on peut pas, si on retourne, enfin, dans la loi, je veux dire, de la protection subsidiaire, si on retourne dans le pays, que l'on a fui, on perd sa demande d'asile. Effectivement, on peut plus revenir d'une certaine façon. Donc, il y a cet élément-là qu'il faut prendre en compte. Alors, ça touche pas, évidemment, ceux qui ont, eu la chance d'obtenir une nationalité européenne. Il y a eu un peu plus de 100 000, Syriens qui ont eu la nationalité, allemande, par exemple. Il y a eu aussi des nationalités turques qui a été accordée. Il y a eu aussi une naturalisation en France. Mais pour les autres, effectivement, ça pose un gros problème. La Turquie a réussi finalement à faire des dérogations extrêmement intéressantes qui pourraient inspirer nos gouvernants. C'est d'autoriser 3 voyages jusqu'au 1er juillet pour un membre de la famille pour aller voir comment ça se passe en Syrie et puis aussi pour préparer les conditions du retour, en plus d'une aide financière. Donc ça, c'est effectivement aujourd'hui, il y a des demandes faites à l'OFPRA, justement, pour qu'il y ait plus de dérogations qui soient accordées, pour qu'il y ait justement ce mouvement de retour, mais finalement pour faire établir un état des lieux, si on peut dire, sachant que beaucoup de ces personnes qui sont aujourd'hui en Europe, en Turquie, au Liban, etc., n'ont pas vu leur famille depuis 13 ans. Donc c'est extrêmement douloureux pour eux de ne pas pouvoir retrouver leurs parents, leurs amis, voir leurs enfants. Donc c'est effectivement faire peser sur leur tête une nouvelle souffrance du fait que aujourd'hui que le régime est tombé, effectivement pour eux le combat de leur vie, en tout cas pour ceux qui étaient opposants, a réussi, mais qu'il manque en fait d'atteindre, si on peut dire, la terre promise.
Est-ce que lorsque ces Syriennes, ces Syriens sont partis de leur pays depuis 2011, est-ce qu'ils étaient compris par celles et ceux qui restaient ?
Alors, il faut savoir une chose, en fait, c'est que ça va contre les discours, en fait, sur l'immigration que l'on entend habituellement, et notamment qui vient de l'extrême droite. C'est-à-dire que pour la plupart, en tout cas, leur exil était contraint et forcé. C'est-à-dire, ils avaient aucune envie de partir, soit en Turquie, soit au Liban, soit dans les pays européens. Oui, ils cherchaient pas une vie meilleure. C'est-à-dire, pour la plupart, ils étaient contraints par la guerre et par la répression.
C'est une chose de dire, Franck Mermier, qu'ils n'avaient pas le choix, et c'est certain. Ce sont des réfugiés, d'ailleurs, même plus que des immigrés. Mais celles et ceux qui y restaient étaient sans doute contraints eux-mêmes de rester. Est-ce qu'ils ont pu envier, est-ce qu'ils ont pu en vouloir à celles et ceux qui avaient pu partir, et celles et ceux qui ont été contraints de partir?
Alors là, ça dépend effectivement, parce que j'ai interrogé plusieurs de ces personnes qui étaient dans l'opposition et qui ont dû partir, hein, qui viennent de toutes les communautés en fait du pays. Et en fait, une partie de la famille restée au pays a compris tout à fait leur choix, puisque sinon ils auraient perdu leur être cher, puisqu'il faut savoir que être opposant, ça voulait dire une condamnation à mort, ou en tout cas des années de prison et de torture. Et puis pour d'autres qui étaient restés loyalistes au régime, effectivement, ils ont considéré ces départs comme une trahison. Mais ce qui est normal, puisque effectivement ils avaient suivi la logique du régime, le narratif du régime. Dans le même temps, ce que j'ai écrit aussi, c'est que lorsqu'ils ont retrouvé leur identité, ces personnes qui étaient dans l'opposition, ils ont pu finalement, d'une certaine façon, narguer aussi tous ceux qui, finalement, se moquaient d'eux ou qui les condamnaient moralement au pays, alors qu'une autre partie de la famille, par exemple, voyait avait vu d'un très bon œil leur départ.
Est-ce qu'il faut par ailleurs, Franck Mermier, faire la distinction entre revenir en Syrie et retourner en Syrie ? On imagine que beaucoup de réfugiés réfugiés syriens se sont intégrés en Turquie, au Liban, en Allemagne, en France, et qu'ils n'ont pas forcément envie de se déraciner une nouvelle fois. En revanche, ils ont envie certainement de rendre visite à leur famille, à leurs amis, à leurs proches.
Alors, il y a des degrés, effectivement, dans le degré d'installation et d'intégration, je veux dire, ou d'adaptation plutôt, dans les pays d'accueil, qui fait que on pourrait voir que ceux qui sont les plus précaires vont retourner en Syrie, évidemment, puisque ils n'auront pas trouvé en fait un moyen de vivre, et notamment c'est le cas, ça peut être le cas au Liban et en Turquie. Et puis il y a aussi ceux qui sont les plus politisés peuvent avoir aussi envie de continuer leur projet politique et notamment de renforcer leur camp idéologique en Syrie même, dans les combats politiques qui vont avoir lieu bientôt, avec notamment l'espoir d'une conférence du dialogue national, donc pour peser sur le destin de la Syrie. Et puis il y a beaucoup aussi qui sont actuellement soit en Turquie, soit dans les pays européens, qui effectivement ont créé des racines dans ces pays, et notamment pour ceux qui ont des enfants qui vont à l'école, c'est-à-dire et qui sont scolarisés dans les pays européens et même en Turquie, c'est-à-dire le fait que tout d'un coup on a là une autre appréhension effectivement de la vie en exil, puisque là c'est plus un exil mais c'est effectivement une installation qui s'est faite, et donc pour beaucoup même une installation qui finalement est choisie. Et donc à partir de ce moment-là, évidemment, ça va être beaucoup plus difficile d'envisager un retour en Syrie, mais par contre ils envisagent certainement de revenir en Syrie pour au moins voir leurs êtres chers.
Il n'y a pas seulement des individus qui reviennent ou qui rentrent en Syrie, il y a également, c'est ce que vous nous disiez en préparant cette émission, des associations qui se réimplantent à nouveau sur le territoire syrien, qui rouvrent des branches ou des succursales. Quel est l'enjeu là dans ce domaine?
Alors, toutes les organisations en fait syriennes qui ont été créées en exil avaient des liens aussi avec l'intérieur, et aujourd'hui, effectivement, l'enjeu, c'est de créer des branches, des grandes branches, ou de se réinstaller en Syrie, puisque c'est là que le combat doit être mené. On a, par exemple, l'organisation des femmes qui s'est retrouvée en Syrie. Il y a Madaniya, une plateforme d'organisation non gouvernementale syrienne qui s'est réimplantée en Syrie. Il y a aussi des éditeurs qui vont revenir. Il y a aussi, par exemple, la Ligue des écrivains syriens qui a été créée à l'étranger, notamment à Londres, pour faire pièce à l'Union des éditeurs arabes qui était inféodée au régime baasiste, qui va revenir, etc. Et il y a aussi même des librairies qui vont s'ouvrir prochainement en Syrie, parce qu'il y a eu une catastrophe sur le plan culturel en Syrie, en raison de la répression du régime, de la censure bien sûr, mais aussi en raison des conditions économiques. Donc il y a effectivement aussi les partis politiques qui se sont créés en exil et qui, là, aujourd'hui, vont pouvoir exercer leur action en Syrie même. Et on a même des groupes de jeunes Syriens qui ont décidé de partir collectivement en Syrie pour participer au futur de la Syrie, c'est-à-dire à l'action politique en Syrie. Alors, ces jeunes sont quelques dizaines, quelques centaines, mais ça signifie qu'il y a une dynamique aussi de retour pour participer à l'action politique, ce qui est un bon signe aussi pour le futur de la Syrie.
Je voudrais citer, Franck Mermier, un extrait justement de cette tribune que vous avez fait paraître la semaine dernière, ou mais c'était même peut-être il y a deux semaines, dans le journal Le Monde. Je vous cite « La force de l'événement », vous parlez de la chute du régime de Bachar al-Assad le 8 décembre dernier, « La force de l'événement a ouvert le champ des possibles sur les plans individuels et collectifs. Elle a déjà produit, par sa soudaineté, des tentatives de réécriture téléologique de la révolution syrienne, qui sont autant de manières de se réajuster individuellement et collectivement à la hauteur de ce dénouement inattendu. » Fin de citation. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par ces mots?
Tout simplement le fait que 2011, la révolution syrienne. 2012-2013, militarisation de la révolution, enfin disons de la lutte, guerre, que certains appellent guerre civile, guerre interne avec des interférences extérieures. Pour certains, la révolution a continué jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 8 décembre 2024. Et pour d'autres, ce qui s'est passé le 8 décembre 2024, ce n'est pas une continuation de la révolution, mais c'est une autre dynamique qui a entraîné la chute du régime, même si, effectivement, l'élan avait été donné par la révolution 18 mars 2011. Donc, en fait, aujourd'hui, il faut réinterpréter tout ce qui s'est passé depuis 13 ans. Il faut donner du sens, non seulement sur le plan historique, mais aussi sur un plan personnel. C'est-à-dire un sens aussi à l'action que l'on a entrepris depuis 2011. Et donc, il y a aussi, et c'est, je crois que c'est un bon signe aussi, c'est tout à fait positif, le fait qu'on va avoir là une nouvelle guerre des récits sur ce qui s'est passé et ce qui a conduit au 8 décembre. Est-ce que c'est la continuation de la révolution ou si c'est simplement la fin de la guerre interne avec des interférences extérieures, ou est-ce que c'est finalement quelque chose qui dépasse tout cela et c'est par exemple la victoire des islamistes en Syrie.
Et votre analyse, en quelques mots, en quelques secondes même, est-ce que pour vous c'est la continuation de la révolution de 2011 ou une rupture franche?
Non, moi je pense qu'effectivement, ce qui s'est passé le 8 décembre, c'était la chute du régime de Bachar al-Assad, est effectivement lié à la révolution de 2011, puisque sinon elle n'aurait pas pu avoir lieu. Et dans le même temps, effectivement, c'est une des séquences de cette révolution qui a été amplifié et qui est aujourd'hui finalement a gagné d'une certaine façon. Mais aujourd'hui, finalement, ce qui est intéressant à voir, c'est que la révolution reprend aujourd'hui sur de nouvelles bases avec les revendications premières de 2011.
Merci beaucoup Franck Mermier d'être venu nous parler des revenants syriens. Je rappelle que vous êtes anthropologue et directeur de recherche au CNRS, membre également de l'IRIS.